Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour ? 20 mars 2023. Publication du rapport de synthèse du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Qu'est-ce que ce rapport de synthèse ? En quoi est-il différent des autres parutions de ce groupe d'experts scientifiques du climat ? Quelles analyses en découlent et quelles préconisations émergent pour aider notre espèce à poursuivre cette aventure sur cette planète Terre ? Le rapport de synthèse du GIEC intègre les principales conclusions du 6e rapport d'évaluation en se focalisant sur des thématiques dominantes telles que les données scientifiques accumulées de ces dernières décennies, les vulnérabilités de nos sociétés actuelles et les méthodes d'adaptation que nous sommes en capacité de mettre en place pour limiter les frais. En clair, ce document résume l'état des connaissances du changement climatique, ses impacts et risques généralisés, ainsi que les solutions qui s'offrent à nous pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. Ce document faisant plusieurs centaines de pages, en lien dans le podcast, je me permets dans cet épisode à durée limitée de ne vous mentionner que les principales grandes idées qui en émergent.
Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier.
Cette synthèse met en premier lieu l'accent sur l'interdépendance du climat, des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que des sociétés humaines, la valeur des diverses formes de connaissances, et les liens étroits entre l'adaptation au changement climatique, l'atténuation de ses effets et la gestion des risques. Souvenez-vous, si le vivant, dans toute sa diversité, ne fonctionne plus correctement, c'est toute la pompe à carbone qui s'enraye. Pour illustrer cela, pensez à l'océan et un de ses habitants, le phytoplancton. Pompe à carbone par excellence. Une des espèces majeures de cette catégorie, Madame Emiliania, ne saurait survivre si l'océan atteint 28 degrés. Piégeant une grande partie du carbone atmosphérique dans la belle bleue, sa disparition totale contribuerait largement à amplifier le phénomène de dérèglement climatique. Cette synthèse met également en évidence les pertes et préjudices que nous subissons déjà et que nous continuerons à subir à l'avenir, frappant particulièrement les personnes et les écosystèmes les plus vulnérables. On peut citer par exemple l'augmentation croissante, en nombre et en intensité, des catastrophes naturelles, inondations, cyclones, sécheresses. À plusieurs reprises, les niveaux actuels des ressources financières dédiées au climat sont jugés très insuffisants et sont encore largement dépassés par les flux de financement des énergies fossiles. En dernier point, non des moindres, pour que vous ayez plusieurs clés de compréhension de ce gros document, on appuie sur une réalité de notre monde humain. Rien n'est possible sans donner la priorité à l'équité, à la justice climatique, à la justice sociale, à l'inclusion et à des processus de transition justes. Les solutions proposées sont quant à elles multiples et adaptables à chaque contexte pour augmenter leur pertinence. On parle de baisse radicale rapide et soutenue des émissions de CO2, préservation et augmentation des surfaces d'espace dits naturels, ou encore séquestration du carbone en agriculture. Cependant, un mot ne cesse de réapparaître, à la surprise de plusieurs décisionnaires, la sobriété. Et si la santé mentale est bel et bien support à ce discours, il n'en demeure pas moins que les bénéfices d'un changement de mode de vie pour les humains les plus impactants sur le climat tels que ceux ayant des grandes ressources économiques d'après ce même rapport, seront multiples, à commencer par une augmentation du bien-être individuel et collectif. À l'heure où ce monde devient de plus en plus méconnaissable pour l'oiseau qui faisait son nid depuis des générations à cet endroit précis, ou les insectes qui venaient ardemment décorer nos pare-brises, des humains campent encore sur des positions où ils pensent que la tendance qui régit le monde ne s'appliquera pas à nos modes de vie. Le climato-scepticisme est un comportement humain qui intéresse bon nombre de scientifiques pour les origines diversifiées qui maintiennent cette tendance à vouloir ignorer, consciemment ou non, le changement global qui s'opère actuellement. Notre printemps évanescent est un appel à se plonger dans un récit légendaire d'anciens peuples, à l'heure où le soleil était le centre de toute attention et où les planètes domptaient les esprits. Écoutez bien ce que le serpent à gueule ouverte de l'équinoxe de printemps vient nous susurrer à l'oreille. Le cinquième soleil, traduction d'une légende aztèque. En ce temps-là, il n'y avait pas encore un soleil pour éclairer le monde qui était plongé dans une nuit éternelle. Alors les quatre dieux les plus puissants se réunirent pour en créer un. Ils étaient tous d'accord pour créer un soleil, mais ils discutèrent longtemps sans pouvoir décider quelle en serait la couleur. Serait-il bleu, rouge, blanc ou noir? Aucun d'eux n'en savait rien, et chacun prenait sa couleur préférée. Aussi décidèrent-ils de faire chacun une expérience. Le premier fut Tlaloc, le dieu de la pluie, qui siégeait au sud des cieux. Il tira son soleil des eaux, c'était un soleil bleu. Et voilà ce qui arriva. La pluie se mit à tomber. Elle tombait, tombait. Le monde entier était bleu, un joli bleu. Mais il ne cessait pas de pleuvoir à tel point qu'il y eut tellement d'eau en quelque temps que le soleil lui-même se noya. Et seul, les poissons survécurent à ce terrible déluge. Ensuite, se présenta Xipetotec, le dieu du feu, qui siège à l'ouest des cieux. Il avait vu ce qu'il était advenu de la première expérience, et il espérait que son soleil rouge-feu brillerait plus longtemps. Mais Xipetotec commit lui aussi une erreur. Le monde, sous les flamboyants rayons, se mit à brûler en une flamme immense, et la flamme monta plus haut, toujours plus haut, et le soleil lui-même se consuma. Cette fois, seuls les oiseaux qui avaient pu s'envoler à temps survécurent. Les ténèbres revinrent jusqu'à ce que le blanc Quetzalcoatl, le dieu de l'Orient, ait créé son soleil. Et cette fois, tout se passa bien. Il ne fit pas trop chaud, il ne plut pas. Toutefois, quelques instants après, le vent se mit à souffler. Il souffla d'abord doucement, puis se changea en un tourbillon qui balaya de la terre toutes les créatures vivantes. Le soleil lui-même fut chassé on ne sait où. Pour dire vrai, Quetzalcoatl n'était pas responsable de cette catastrophe. Mais Tezcatlipoca, le dieu du septentrion, qui par une méchante envie avait chassé le soleil de Quetzalcoatl pour imposer le sien, le soleil noir des jaguars. Et comme ces rayons noirs envahissaient la terre, apparut dans le monde une multitude de jaguars. Ils égorgèrent et massacrèrent sans pitié toutes les autres créatures vivantes. Tezcatlipoca en riait de satisfaction, mais il dut vite déchanter, car bientôt les jaguars s'en prirent au soleil noir, et à coups de dents et de griffes, le mirent en pièces. Pendant bien longtemps, les quatre plus puissants dieux se demandèrent comment s'y prendre pour créer un cinquième soleil qui soit meilleur que les autres. Mais ils n'arrivaient pas à s'en faire une idée bien claire. Ils tinrent donc de nouveaux conseils sur la place consacrée de Teotihuacan. Ils invitèrent cette fois les autres dieux de moindre puissance et se retrouvèrent finalement en 999. C'était certes une imposante assemblée et des idées y furent proposées en grand nombre. Néanmoins, à la fin, tous se rallièrent. L'un d'eux devait se jeter dans le feu pour se transformer en soleil, et les flammes l'élèveraient jusqu'aux cieux sous la forme d'un disque flamboyant. Personne n'avait envie de se trouver dans le feu, même si les dieux ne brûlent pas vraiment. Tekukitsekwatl se présenta. « Moi, je donnerai la lumière à la terre, et vous verrez comme ce sera magnifique. » Mais presque tous les autres déclaraient que ce n'était pas à lui qu'il fallait confier cette tâche. Ils lui jetaient des regards de doute. Ce dieu-là avait une réputation de bavard et de hableur. Savait-on s'il allait tenir sa promesse ? Ne valait-il pas mieux, pour plus de sûreté, le faire accompagner d'un autre ? Il y eut un moment de silence. Puis tous les regards se dirigèrent vers Nanotsin. C'était une espèce de petit dieu timide. Il ne refusait jamais rien, même quand la plupart du temps il n'en tirait que des désagréments. Aussi, cette fois encore, il déclara sans hésiter. « Pourquoi ne me jetterai-je pas dans le feu si vous le désirez ? Je serai très heureux de devenir le soleil. » Les dieux s'attaquèrent immédiatement aux préparatifs. Quand vint l'instant décisif, Tekukitsekwatl se montra revêtu d'une armure de plumes d'oiseau. Nanutsin, lui, portait son manteau de paille, et tous deux se dirigèrent vers le feu. Là, les attendaient les dieux rangés sur deux files. Ils se tournèrent tous ensemble vers Tekukitsekwatl et lui crièrent « Saute ! Saute dans le feu !» Il s'avança de 4 pas, de 8 pas. Au dernier instant, quand il fut au bord de l'énorme brasier, il lui tourna honteusement le dos. 3 fois encore, sa peur domina son courage et les dieux se tournèrent vers Nanutsin pour l'encourager. « Saute ! Saute dans le feu !» Sans une seconde d'hésitation, le petit dieu se jeta dans les flammes. Le foyer gronda. Les étincelles jaillirent de tous les côtés comme des fleurs de feu et l'engloutirent. À la minute même, Tekukitsekwatl retrouva son courage perdu et se jeta aussi dans les flammes. Il se fit un grand silence. Les dieux virent pour la première fois le soleil se lever. Ainsi, les rayons rougeoyants de l'aurore embrasèrent le monde. La clarté grandissait et à l'orient apparaissait un anneau d'or. Il monta dans le ciel. Et bientôt il resplendit en un disque parfait qui éblouissait les yeux. Les modestes offrandes de Nanutsin avaient porté leurs fruits. Mais que se passait-il ? Voilà que se mettait à luire un deuxième soleil, mais quelle impudence ! C'est Tekukitsekwatl, s'écrièrent les dieux, et la fureur les envahit. Pourquoi cette espèce de lâche brillait-il d'une lumière aussi éclatante que celle de Nanutsin ? Non, non, jamais ! Il ne deviendra que la lune, qui arrive toujours après le soleil. Et l'un d'eux jeta un lièvre à la tête de Tekukitsekwatl pour diminuer son éclat. Et c'est ce jour-là que notre soleil brilla pour la première fois dans les cieux, et aussi que naquit la lune. Ce récit mythique du cinquième soleil fait référence à la conception fondamentale dans la pensée amérindienne d'un temps cyclique et d'une succession de mondes bien éloignés de notre conception occidentale d'un temps linéaire. Rappelez-vous, ces épisodes de la série L'école buissonnière a retracé l'évolution, la disparition et l'apparition de tant d'êtres vivants sur cette même planète, en même temps que la Terre traverse les bras de la Voie lactée, et que les airs de chaud et de froid intenses se succèdent, nous tournons allègrement, nous vivants, dans une sempiternelle rengaine d'une vie qui se renouvelle. Autrefois, le soleil était central dans la vie de l'humain, comme le prouvent les nombreux observatoires des astres à travers le monde. Du gnomon, bâton planté dans le sol pour donner l'heure de la journée et la saison, jusqu'au calendrier solaire lunaire, en passant par la pyramide de Kukulkan, avec sur ses 4 faces 365 marches, le soleil rythmait, comme tout ce qui vit, nous vit. Le devenir de notre espèce donne matière à de nombreux créateurs et créatrices de notre époque. Dans un monde post-humain, une artiste tente de confier sa vision colorée d'un monde déshumanisé. Là où il ne reste que l'empreinte de corps évanoui, comme sur cette feuille d'inox incurvée d'une table d'accouchement. Anita Molinero souhaite créer les fossiles du futur, ceux de notre monde bientôt disparus. Ces œuvres à grande échelle sont créées à partir de matériaux de récupération. Tantôt, elles s'arment d'un lance-flamme pour tordre et fondre des objets en plastique agencés en sculpture de cheminée. Tantôt, elles s'attaquent à du polystyrène extrudé, du mobilier romain, dans des œuvres plus monumentales qui gardent toujours la trace de leur origine. Le visiteur s'amuse ainsi à retrouver dans un étrange coquillage, au mur, une poubelle de rue incendiée, ou encore dans une petite montagne bleue entaillée d'une grotte, une pile d'emballages de fruits. Certains artistes demeurent portés sur une mise à disposition de la connaissance et de la richesse que le vivant nous offre. On pense ainsi à l'artiste Eko Nogro et ses messages politiques arborés sur des œuvres artisanales de sa composition. Ou encore à l'artiste grec, The Crank, qui, avec sa dernière œuvre, une impressionnante empreinte de pas géante de 1000 mètres carrés sur l'île de Paxos en Grèce, dénonce avec provocation les répercussions de la vie moderne sur notre environnement. En ville, ce sont plutôt des artistes comme Edina Tokodi, du collectif Mostica Urban Greenery, qui tentent de reconnecter la ville et ses habitants à la faune et la flore. Le Moss Graffiti, graffiti de mousse, appuie une démarche qu'elle souhaite responsable avec un matériau naturel et biodégradable. Son travail, délibérément engagé, prône un mode de vie durable et un nouvel espace urbain, où humains et non-humains évoluent en harmonie et ont toutes deux leur juste place. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous retournons écouter, pour un dernier épisode de la série, un amoureux de l'écologie, cuisiné aux petits oignons.
Les œufs tremblent, tremblent être noyés.